Selon l'expression de notre frère, Seigneur, tu connais nos problèmes, nos défaillances, notre découragement. Fais que notre âme contemple sans cesse l'agneau. C'est probablement une réponse, pour ne pas dire la réponse, à nos problèmes, notre défaillance, notre découragement. Avec l'aide du Seigneur, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous appuyer sur celui en qui se trouve la force, nous pourrions lire ensemble un chapitre du livre du Cantique des Cantiques, où nous allons rencontrer une bien-aimée, en l'occurrence l'Assemblée du Seigneur, dans ses problèmes, dans sa défaillance, dans son découragement. Et puis, après s'être exprimée quant à son bien-aimé, elle va pouvoir retrouver la joie du salut qui lui avait été acquis par pure grâce. Dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 5e, « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates, j'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez. Buvez abondamment, bien-aimés. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles, des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique. Comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a avancé sa main par le guichet, et mes entrailles se sont émues à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, et de mes doigts la myrrhe limpide sur les poignées du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait passé plus loin. Mon âme s'en était allée pendant qu'il parlait. Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas. Je l'appelais, mais il ne me répondit pas. Les gardes qui font la ronde par la ville me trouvèrent. Ils me frappèrent, ils m'ont blessé. Les gardes des murailles m'ont ôté mon voile de dessus moi. Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre 10 000. Sa tête est un or très fin, ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau, ses yeux comme des colombes près des ruisseaux d'eau, baigné dans le lait, bien enchâssé. Ses joues, comme des parterres d'aromates, des corbeilles de fleurs parfumées. Ses lèvres, des lys distillant une myrrhe limpide. Ses mains, des rondelles d'or, où sont enchâssées des chrysolites. Son ventre, un ivoire poli, couvert de saphirs. Ses jambes, des colonnes de marbre blanc, reposant sur des socles d'or fin. Son port, comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais est plein de douceur, et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné, et nous le chercherons avec toi? Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il paît parmi les lys. Quelle expérience! Cantique des Cantiques, le plus beau des cantiques, écrit par Salomon, aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Ça fait donc 3000 ans que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des frères et sœurs dans la foi lisent et relisent le plus beau des poèmes d'amour, une des plus belles déclarations d'amour que nous trouvons dans la parole de Dieu, entre un roi d'Israël et une favorite, celle qui se dit noire mais qui est belle, celle qui se compare aux tentes de Kédar, mais par extension, nous pouvons y voir une déclaration d'amour entre Dieu et son peuple Israël pendant la période de l'Ancien Testament et entre le Seigneur Jésus et son Église, l'épouse céleste, pendant la période du Nouveau Testament. Et lorsque l'épouse aura été enlevée, après le retour du Seigneur, de nouveau la relation d'amour entre Dieu et son peuple Israël, afin qu'Israël domine le monde entier. Il y a donc beaucoup d'affection dans ce livre du Cantique des Cantiques. Beaucoup d'allées et venues, beaucoup de déclarations, beaucoup d'intentions, beaucoup de promesses, beaucoup de partage, beaucoup de va-et-vient, le paroxysme de l'amour, mais aussi après les temps forts, les temps morts. Et ici, au chapitre 5, il y a le temps fort d'un merveilleux repas dans le premier verset, où le Seigneur s'est tout accaparé, où nous l'entendons dire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, après la merveilleuse confession de l'apôtre Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon assemblée, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates, j'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. » Tout est à lui. Tout est de lui, tout est pour lui, tout est par lui. À lui la gloire éternellement. Romains 11. Et il y a là une telle effervescence de l'amour dans un partage qui nous dépasse que c'est le ciel sur la terre. C'est le Seigneur qui donne, et il ne donne pas chichement, il donne en abondance. C'est la bien-aimée qui est au chevet de son époux et qui profite de ses divins bienfaits. Tout est là. Lorsque les disciples, réunis dans la chambre haute, ont pu faire cette merveilleuse expérience après tant d'angoisse, tant d'appréhension, de se retrouver là et le Seigneur au milieu d'eux, Jean chapitre 20, verset 20, les disciples donc se réjouirent quand ils virent Jésus. Tant de bienfaits, tant de douceur, tant de privilèges, c'est l'abondance de l'amour. Et puis on s'habitue, et c'est l'histoire de l'Assemblée sur la terre. C'est mon histoire individuellement, c'est l'histoire de l'Église universelle collectivement. C'est l'histoire d'Éphèse, l'Assemblée d'Éphèse, qui avait tant reçu. Il suffit de lire les 18 premiers versets de l'épître de Paul aux Éphésiens pour se rendre compte de ce paroxysme de l'amour dans lequel les saints d'Éphèse se trouvaient. Il y avait là cette projection spirituelle, on voyait la tête de l'Église dans le ciel déjà glorifiée, Christ dans la gloire, le chef de l'Assemblée. Et puis, quelque temps plus tard, 50, 40 ans plus tard, à peine, Jean, dans son Apocalypse, vient révéler aux mêmes chrétiens d'Éphèse, « Je connais ton amour, je connais tes œuvres, pardon. » Apocalypse, chapitre 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience. Tu peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. » Tu as patience, tu as supporté des afflictions pour mon nom, tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que le Seigneur me reproche aujourd'hui encore. C'est ce que le Seigneur reproche à son assemblée, d'où les problèmes, le découragement et les difficultés. Mais l'amour du Seigneur, il ne périt jamais. Évangile de Jean, chapitre 13, « Le Seigneur ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. » Il n'y a pas de limite à l'amour du Seigneur. Lorsque le Seigneur a vu les deux disciples d'Emmaüs s'éloigner, parce qu'ils raisonnaient en eux-mêmes, parce qu'ils avaient mis tant d'espoir dans ce Jésus de Nazareth qui pour eux aurait dû être le Messie, capable de libérer la Palestine de l'emprise romaine, ils s'en allaient tout tristes, leur visage était tout triste. Luc 24 nous le rapporte. L'amour du Seigneur ne leur fait pas de reproches, mais l'amour du Seigneur va vers eux et il marcha avec eux. Comme aujourd'hui, le Seigneur, par sa parole, vient ici, au milieu des deux ou trois rassemblés en son nom, pour nous dire et nous redire combien il nous aime, même si, par notre propre faute, nous avons pris quelque aisance, quelque habitude, même si, après le festin de l'amour du premier verset de ce chapitre 5, nous rencontrons le sommeil de son absence. Certes, physiquement, il est absent, mais spirituellement, le Seigneur reste omniprésent. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Par notre propre faute, trop souvent nous le mettons dehors de nos vies. Où sont nos préoccupations ? Sommes-nous préoccupés des choses de la terre, comme nous le chantons parfois en relation avec la parabole des vierges folles ? Ou sommes-nous réellement préoccupés 24 heures sur 24 de ce paroxysme de l'amour que nous avons dans ce premier verset du chapitre 5 où tout est paix, tout est joie, tout est gloire, tout est satisfaction ? En réalité, nous nous endormons. Je dormais. Et puisque la bien-aimée le confesse, nous devons le confesser aussi, moi le premier. Je dormais, je suis sûr de mon salut, mais j'ai peut-être perdu la joie de ce salut. Psaume 51, suite à la faute de David avec Bathsheba, « Ô Dieu, rends-moi la joie de ton salut ». Le salut, nous le savons, il nous est acquis définitivement, une fois pour toutes, dès que nous avons confessé nos fautes. Dès que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous savons que nous lui appartenons pour le temps, pour l'éternité. L'amour ne périt jamais. Et nous savons quelle est notre destinée. Elle est céleste. Elle est universelle. Elle est éternelle. Mais nous pouvons perdre la joie de ce salut. Parce que nous nous endormons sur nos lauriers. Parce que nous nous satisfaisons de ce que nous connaissons et parce que nous ne mettons pas suffisamment en pratique ce que le Seigneur attend de nous. On dort, mais notre conscience reste quand même travaillée. Mon cœur est réveillé. On n'est pas à l'aise. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dormais, mais mon cœur était éveillé. À la fin du chapitre 7 de l'Évangile de Jean, il en était déjà comme cela. Jean, chapitre 7, verset 53. « Chacun s'en alla dans sa maison, et Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. » Chacun s'en va chez soi. Chacun reprend ses petites habitudes. Chacun voit ses propres intérêts. Jésus seul s'en va à la montagne des Oliviers pour prier. Où est-il le Seigneur actuellement ? Nous avons dans le ciel ce grand souverain sacrificateur qui, pour nous, prie. Il présente à Dieu ses brebis chéries. Il nous porte sur ses épaules et sur son cœur. Il nous aime. Il nous voit en train de nous endormir. Que va-t-il faire ? Nous laisser nous endormir encore plus profondément ? Pas du tout. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Réveille-toi, ouvre-moi. » Même si à certains égards, dans certains compartiments de notre vie, nous avons eu l'outrecuidance de mettre le Seigneur dehors. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On revient au premier verset. L'abondance de l'amour, mon lait, mon miel, mon vin. Mais le Seigneur est là, il frappe, il fait entendre sa voix. Il ne dit pas « Ouvre-moi, je suis ton roi, je suis ton bien-aimé, je suis ton Seigneur ». Il dit « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite ». Vous vous rendez compte que le Seigneur continue à nous appeler sa parfaite, malgré le pauvre état dans lequel nous sommes, et pourtant, c'est écrit. Elle dort, nous nous sommes endormis, mais le Seigneur, au travers de son œuvre, du haut de son ciel, au travers de la croix du calvaire, nous voit d'un tout autre œil. Ma parfaite. Nous comptons pour son cœur. À quel prix? Au prix de son sang, au prix de sa vie. Ma parfaite. Et il ajoute, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Il a traversé la nuit, le froid, l'épreuve. Il a traversé les vicissitudes de ce monde pour venir à notre rencontre. Il est tôt le matin, les gouttes de la nuit. La rosée est là. C'est le jour nouveau qui s'annonce. Il frappe, il crie. Et la bien-aimée se trouve dépouillée de sa tunique. Elle s'est endormie, elle a pris ses aises. Elle est dans son chez-soi, dans son cocon. On parle beaucoup, dans un terme novateur, en ce début du XXIe siècle, de coucouner, choisir ses aises, rester chez soi. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Le Seigneur n'a jamais coucouné. Le Seigneur peut dire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5e, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. » Et le Seigneur travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an. Même dans le ciel, même dans la gloire, dans son service de grand souverain sacrificateur. Et la bien-aimée, qu'il considère comme sa parfaite, a cet orgueil spirituel de lui dire « Comment revêtirai-je ma tunique ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? » Elle a même oublié le « comment ». Dans ce chapitre 5, pour nous brosser un peu le tableau de ce chapitre 5, il y a toute une série de questions. Nous avons ici les premières questions de la bien-aimée. Comment? Comment? Et puis, un peu plus loin, il y aura les questions posées par les filles de Jérusalem. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus? Qu'est-il de plus? Et puis, nous le verrons au début du chapitre 6. Toujours, les filles de Jérusalem posent deux questions. Où est-il allé? De quel côté? Première question, comment? Nous avons même perdu le sens de notre relation avec le Seigneur Jésus. On est là, à l'écart, on s'est endormi, on a pris ses aises, on ne sait même plus comment revêtir sa tunique. Et pourtant, nous savons que c'est dans le sang de l'agneau que nous avons été lavés, et que nous sommes revêtus de la sainte justice divine. Oserions-nous nous dépouiller même de cela? J'ai lavé mes pieds. J'ai lavé mes pieds. Quel égoïsme! Quel égocentrisme! Comment les salirai-je? Pour toi, Seigneur, je ne fais plus d'efforts. C'est trop tôt le matin, c'est trop tard le soir, laisse-moi bien tranquille. On ne veut plus faire d'efforts pour le Seigneur. Quelle tristesse dans le cœur du Seigneur. Il a parlé. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma bien-aimée, ma parfaite. Il a fait du bruit. Il a frappé à la porte. On sait, elle sait qu'il est là derrière. Elle a reconnu sa voix. Il a fait du bruit. Dieu parle une fois, deux fois, puis il ne parle plus. Il ne fait plus de bruit, il ne laisse qu'un signe. Verset 4, mon bien-aimé a avancé sa main par le guichet. Il ne parle plus, il ne fait plus de bruit, une main. Mais une main qui est, nous le savons, pleine de myrrhe limpide. Elle voit. Elle a entendu, maintenant elle voit. Et c'est à la vue de sa main qu'elle comprend que derrière la porte, il est quelqu'un qui n'a d'impatience que d'ouvrir pour serrer dans ses bras sa bien-aimée. Mais de la même manière qu'elle l'a fait attendre, de la même manière qu'elle ne lui a pas ouvert, il va agir de la même manière. Les entrailles sont réveillées, Les entrailles sont émues à cause de lui, à cause de sa main. Elle reconnaît, elle va enfin se lever. Mais avec quel tact le Seigneur est-il intervenu? Nous nous souvenons de l'apôtre Pierre, dont nous avons étudié quelque chose jeudi dernier à La Rochelle. Le Seigneur l'avait prévenu. Satan va vous cribler, mais j'ai déjà prié pour toi, Pierre, afin que quand tu seras revenu une fois, tu fortifies tes frères. Seigneur, où que tu ailles, je serai là. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Et dans la cour du souverain sacrificateur, trois fois, Pierre va renier son maître. Le Seigneur avait parlé. Pierre a entendu. Et puis la troisième étape, le Seigneur pose un regard. Il ne dit plus rien. Et au regard du Seigneur, Pierre comprend tout. Il pleura amèrement. Il sort, il pleure amèrement. Ici, la même chose. Le Seigneur parle, le Seigneur fait du bruit, le Seigneur montre la main, il ne parle plus. Et puis, les entrailles sont émues à cause de lui. Alors, on prend une initiative. Alors, on prend une décision. Alors seulement, on sort de sa léthargie. Alors seulement, on sort de son sommeil. Pour les disciples d'Emmaüs, même phénomène. Ils s'en allaient, attristés, raisonnant. Le Seigneur va à leur rencontre, il marche avec eux. Ils insistent pour que le Seigneur reste avec eux. « Seigneur, reste avec nous, le jour décline, le soir approche. » Le Seigneur se laisse faire. Et au moment de rendre grâce pour le souper, la même main, une main qui porte les traces ineffaçables de l'œuvre de la croix. Des mains qui ont souffert sur la croix, mais des mains qui restent ouvertes pour bénir. Les disciples d'Emmaüs voient cela. En étant tristes et en raisonnant, ils s'étaient endormis dans leur conscience, mais dès qu'ils voient les mains et que le Seigneur a disparu, ils sortent de leur léthargie spirituelle, ils sortent de leur sommeil spirituel, et en pleine nuit, ils retournent à Jérusalem, à 12 kilomètres de là, pour annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples réunis à Jérusalem. Thomas n'était pas là, dans la chambre haute de Jean 20. Et il peut dire, moi si je ne vois pas, si je ne mets pas mes mains dans les traces de ses doigts, dans son côté, je ne croirai pas. L'incrédulité personnifiée, notre incrédulité. Parce que Thomas n'est pas plus incrédule que nous, loin de là. Et le Seigneur condescend à aller vers Thomas pour se laisser toucher, pour se laisser voir. Alors l'incrédulité disparaît. Alors Thomas s'écrie, mon Seigneur et mon Dieu. Combien de fois le Seigneur ne doit-il pas venir dans notre cœur pour frapper, pour faire du bruit, pour nous réveiller, parce que nous sommes en léthargie spirituelle, pour ôter de notre bouche ce cri d'amour, de gloire, de reconnaissance, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors elle se lève, elle ouvre à son bien-aimé, l'entrée de la maison sent bon la myrrhe. L'entrée de la maison sent bon le bien-aimé, mais il n'est plus là. Verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Alors son âme est pourfendue. Elle comprend ce qu'elle a fait. Elle pourra bien dire plus loin qu'elle est malade d'amour. C'est bien juste de dire qu'elle est malade d'amour. C'est la deuxième fois qu'elle le dit. Elle l'avait déjà dit au chapitre 2, au verset 5. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Au chapitre 2, elle est malade d'amour parce qu'elle a tant de jouissance de son bien-aimé qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Son cœur déborde de la présence de son bien-aimé à côté d'elle. Elle en est malade tant elle est dans l'expectative et dans l'extase de l'amour qui lui est ainsi prodigué. Ici, c'est une autre forme de maladie. Elle devient malade de savoir qu'elle est passée si près de son bien-aimé, juste derrière la porte, et qu'elle n'a pas eu la spontanéité de se lever et d'aller lui ouvrir. Il n'est plus là. Petite parenthèse, le Seigneur nous accroche toujours par le travers dans lequel nous tombons. Il a appelé, il a frappé, on ne lui a pas ouvert. C'est comme s'il avait trouvé une maison vide. Et lorsque la bien-aimée ouvre la porte, c'est le même phénomène. Elle a beau crier, elle a beau chercher, elle a beau appeler, le Seigneur n'est plus là. Il a disparu. Le Seigneur nous fait passer par les mêmes travers par lesquels nous le faisons passer, pour mieux parler à notre cœur, pour mieux susciter dans notre cœur le désir de revenir auprès de lui. Plus nous nous éloignons de lui, et plus le Seigneur vient à notre rencontre pour nous ramener vers lui, pour faire grandir en nous cet amour qui l'honore et qui le magnifie. Elle comprend qu'elle en est malade et elle peut dire « Mon âme s'en était allée pendant qu'il parlait ». Nous entendons Jérémie nous dire au chapitre 8e et au verset 20 « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés ». Mon âme s'en était allée pendant qu'il parlait. Je le cherchais, je ne le trouvais pas, je l'appelais, mais il ne répondit pas. Quelle tristesse dans le cœur de la bien-aimée. Il semble que dans son cœur, elle est tout perdue. Elle en est réellement malade. Vous vous rendez compte? De penser, d'oser imaginer que le Seigneur vient nous chercher et que nous ne serions pas prêts parce que nous serions endormis. Ah, donne à notre âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Alors elle comprend. Elle comprend, elle cherche, elle appelle, mais il ne répond pas, comme elle-même n'avait pas répondu à l'injonction de son bien-aimé. Elle cherche, mais elle cherche mal. Épître de Jacques, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est le même constat. Où cherche-t-elle? Dans la ville. Le Seigneur n'est pas dans la ville. Où était-il au chapitre 5, premier verset? Je suis venu dans mon jardin. Il n'est pas question de ville. Et dans son désarroi et dans son maladie, dans sa maladie, elle va chercher le Seigneur là où il n'est pas, dans la ville. Et dans la ville, qui va-t-elle rencontrer? Deux groupes de personnes, des gardes et les filles de Jérusalem. Les gardes, ce sont ceux qui doivent faire régner la loi, ce sont ceux qui doivent surveiller les murailles, ce sont ceux qui doivent regarder à ce qui se passe afin que l'ordre règne à l'intérieur de la ville. Et ils trouvent au petit matin une femme qui est en train de s'égosiller à appeler quelqu'un que personne ne connaît. Les gardes ne connaissent pas. Ce n'est pas la première fois qu'elle leur fait le coup. Au chapitre 3, au verset 2, « Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde par la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon âme aime? À peine avais-je passé plus loin que j'ai trouvé celui qui aime mon âme. » La première fois, ils avaient fermé les yeux, ils avaient fait preuve de miséricorde, parce que le bien-aimé s'était manifesté tout de suite après. Ici, le bien-aimé ne se manifeste plus, et pour cause, nous venons de l'expliquer. Et les gardes voient cette femme qui est en train de faire du bruit, de troubler l'ordre public. Ils sont obligés de l'arrêter, de faire les sommations d'usage. Elle est voilée, ils ne la reconnaissent pas, ils sont obligés de la dévoiler. Ils la frappent, parce que manifestement, elle fait trop de bruit. Il faut la faire taire, il faut que le calme règne dans la ville. Il faut que le calme règne dans l'assemblée. Nous sommes dans Jérusalem. Ce n'est pas parce que nous avons commis une faute, une erreur, un égarement, ce n'est pas parce que nous sommes dans le découragement qu'il faut attirer les regards sur nous et qu'il faut manifester un comportement intempestif. Il y a à l'intérieur de l'assemblée des gardes qui sont désignés par le Seigneur pour faire régner la loi, même si ici ils le font brutalement, abruptement. Mais c'est leur rôle, ne l'oublions pas. Lorsque Pierre dissimulait aux Galates que, d'une part, il mangeait avec les Galates, lorsque les frères de Jérusalem n'étaient pas là, mais dès que les frères de Jérusalem sont arrivés, il a fait semblant de se mettre un peu à l'écart. Et l'apôtre Paul a été obligé de le reprendre vertement. L'apôtre Paul est un garde. Ça n'a pas dû faire plaisir à Pierre d'être découvert dans son hypocrisie. Mais l'apôtre Paul a dû intervenir. Les blessures d'un ami sont fidèles, livre des Proverbes. Les blessures des gardes sont fidèles. Cette bien-aimée, au prix de ses blessures, au prix de la réprimande, au prix du déshonneur, au prix de sa souillure, parce qu'elle a été déshonorée, elle a été dévoilée, elle a été mise à nu, cette bien-aimée a reçu des blessures qui vont lui être salutaires. Alors elle se tourne vers un autre groupe qui est là, passant, au verset 8. « Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. » Qui sont ces filles de Jérusalem ? Les filles, probablement la jeunesse personnifiée, peut-être l'insouciance, mais en tout cas une qualité essentielle, la capacité de se mettre à l'écoute de l'autre. Les filles de Jérusalem prennent le temps d'écouter celle qui est là, blessée, déshonorée, souillée. L'amour reprend vigueur. Il restait comme un petit lumignon qui fumait à peine, elle s'était endormie, son cœur est resté réveillé. Mais suite aux blessures, il y a comme un renouveau dans l'amour qui règne dans le cœur de la bien-aimée. Alors les filles de Jérusalem prennent le temps de s'arrêter, d'écouter, de manifester de la compassion. Ce sont probablement des personnes de Jérusalem, ville sainte, qui craignent Dieu et qui vont faire preuve de beaucoup de miséricorde. C'est le Samaritain de l'évangile de Luc qui voit là sur le chemin quelqu'un qui est blessé, quelqu'un devant lequel un lévite et un sacrificateur sont déjà passés, mais ils n'ont même pas tourné les regards. Et pourtant, il est là, blessé, agonisant. Et le Samaritain, le vrai Samaritain, va prendre le temps de panser les plaies, versant de l'huile et du vin à celui qui est là, blessé. Pourtant, c'était un juif, et nous savons qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les juifs. Les filles de Jérusalem auraient pu passer outre leur chemin devant cette femme qui avait troublé l'ordre public, mais elles écoutent que je suis malade d'amour. Alors elles ne comprennent plus, les filles de Jérusalem. Elles disent, tu es malade d'amour ? Mais celui qui vient de frapper à ta porte, celui qui vient de faire du bruit, celui qui t'a appelé, celui qui a montré ses mains, tu l'as laissé dehors. Alors ne viens pas nous dire que tu es malade d'amour. Nous ne comprenons pas. On est malade d'amour quand on court après quelqu'un, parce qu'on saute à son cou, parce qu'on le couvre de baisers. Mais ici, c'est lui qui est venu vers toi, tu as fait la sourde oreille, tu ne t'es même pas levé. Tu n'as même pas remis ta tunique, tu ne t'es même pas lavé les pieds. Ne viens pas nous dire que tu es malade d'amour. Ton bien-aimé, verset 9. Qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé ? Était-ce une amourette de passage ou est-ce vraiment ton bien-aimé pour l'éternité ? Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi après ce que tu viens de manifester dans ta vie ? Alors là, il faut quitter son moi, il faut quitter son égoïsme, il faut quitter son égocentrisme, il faut quitter ses problèmes, il faut quitter ses défaillances, il faut quitter son découragement. Et il faut se repositionner sur Christ. C'est la question essentielle du chapitre. Qu'est-il de plus que tous les autres ? Qu'est-ce que le Seigneur est vraiment dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma conscience ? Qu'est-ce que le Seigneur est dans ma vie d'assemblée ? Qu'est-ce que le Seigneur est dans l'histoire universelle des hommes ? Est-ce que je serais capable de le dire ? Certes, des réponses traditionnelles excellentes que nous connaissons depuis l'école du dimanche. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon ami, le Seigneur est le Sauveur, le Seigneur est le Fils de Dieu, le Fils du Père. Excellent, très bien, connaissance parfaite. Mais maintenant la pratique, au pied du mur. Qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi ? Alors il faut, après avoir été déshonoré physiquement, frappé par les gardes, dévoilé publiquement, il faut maintenant se mettre à nu spirituellement. Parce que le Seigneur, le regard du Seigneur, transperce notre cœur, comme il a transpercé Pierre après son reniement. Il faut ouvrir la bouche, et maintenant on va voir si, de l'abondance du cœur, la bouche est capable de parler. Notre âme fait qu'elle contemple sans cesse l'agneau, son parfait exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. La bien-aimée ouvre sa bouche. Mon bien-aimé, il est blanc, il est vermeil. En disant cela, elle a déjà tout dit. Il est blanc, il est pur, il est saint. Il n'a pas connu le péché, il n'a pas commis le péché, il n'y a aucun péché en lui. Épître de Paul aux Corinthiens, épître de Pierre, épître de Jean, les trois coïncident pour nous affirmer que Jésus est blanc, pur, saint. Rien ne peut lui être reproché. Mais en même temps, il est vermeil, il est rouge vif, rouge sang, le sang de la croix. Le sang dans lequel nos péchés ont été lavés. Son amour a été jusque-là. On le rappelait encore cet après-midi en réunion de jeunes. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. C'est de mettre sa vie, de donner sa vie pour ses amis. Mon bien-aimé, il est blanc et vermeil. Lamentation de Jérémie, chapitre 4. Lamentation de Jérémie, chapitre 4. Verset 7, Jérémie se lamente sur une ville, Jérusalem. Il parle de Jérusalem comme la cité de Dieu, la ville sainte. Et parlant de Jérusalem, il donne un mot de ses Nazaréens. Que dit-il des Nazaréens de Jérusalem? Lamentation 4, 7, ces Nazaréens étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Leur corps était plus vermeil que des rubis. Leur taille, un saphir. Voilà Jérusalem, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toute la gloire que Dieu lui a accordée. Et le Fils éternel du Père, il a les mêmes qualités, mais il surpasse bien évidemment tous les Nazaréens réunis. Il est le Nazaréen. Il est blanc, il est vermeil. Deux premières couleurs à considérer. Troisième couleur, au verset 11e. Ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau. Noires. Pas un cheveu gris sur la tête du bien-aimé. La vigueur perpétuelle, la force à l'état pur, l'énergie pour l'éternité. Son amour ne périt jamais. Noir. La vigueur. Quatrième couleur à considérer. Sa tête. Un or très fin, l'or, la gloire de Dieu, la majesté, la sainteté, la puissance. Et il n'y a pas que la tête qui est en or très fin. Il y a également les mains qui sont des rodelles d'or et il y a les pieds qui sont des socles d'or fin. La tête très fin, les mains de l'or, les pieds de l'or fin. Pas de compromission, pas de consensus. Pas de mélange, l'or pur, l'or agréable. Au niveau de la pensée, au niveau de l'action, les mains, au niveau de la marche, les pieds. Quelle belle couleur à considérer, après le blanc, le vermeil, le noir, l'or. Tout plaît à Dieu. Il est le Fils du Père. Il est le Fils éternel. Il est la gloire du Très-Saint-Lieu. Et il est venu nous apporter les dons de l'Éternel. Quel Seigneur, quel Sauveur. Cinquième couleur, il est question de rondelles d'or, les mains où sont enchâssées des chrysolites, pierres précieuses s'il en est, d'une couleur jaune-verdâtre. Jaune-verdâtre, l'humanité du Seigneur, comme dans le tabernacle, l'arche de l'Alliance, était réalisée en bois de sittim, humanité du Seigneur, recouverte d'or fin, divinité du Seigneur. Tout est agréable aux yeux de Dieu. Lorsqu'il contemple son Fils, dans ce qu'il a accompli sur la terre, durant son ministère, de la crèche à Golgotha et par-delà Golgotha à la résurrection, tout est parfait. Tout est impeccable. Il y a là les chrysolites, humanité parfaite, alliée à l'or très fin de la tête, des mains, des pieds. Rien à reprocher, rien à redire. Le Seigneur est irréprochable. Il est admirable. Autre couleur, le ventre, un ivoire poli, du blanc cassé, du blanc jaunâtre, mais, chose nouvelle à considérer, s'il est question de pierres précieuses dans cette description, telles l'or et le saphir que nous allons voir plus loin, pour obtenir de l'ivoire, il faut mutiler un animal. Pour mutiler un animal, il faut le tuer. Alors la blancheur, bien sûr, qui nous parle des perfections de Christ, mais à quel prix ? Il a été tué, il a été mutilé lorsqu'il était sur la croix. Nous nous entendons, pas un de ses os n'a été brisé, nous le savons bien, mais quelle souffrance ! Déjà les longs sillons dans son dos, lorsqu'il a été fouetté, les crachats sur son visage, les poils de sa joue arrachés, la couronne d'épines sur la tête, les clous dans les mains et dans les pieds, à quel prix ? De l'ivoire poli, couvert de saphir. Le saphir, pierre précieuse, d'une couleur bleutée, le ciel, bien évidemment, la gloire. Il est venu du ciel, il est retourné au ciel, il nous a préparé des places pour que dans la maison paternelle, dans le ciel, dans la gloire, nous ayons place avec lui. Car, Père, je veux, Jean 17, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Ivoire poli, couverte de saphir. Et les colonnes de marbre blanc, ses jambes, merveilleuses à considérer, la stabilité, la pérennité de l'amour du Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle description ! Nous pourrions aller beaucoup plus loin. Vous pensez bien que nous avons médité quelques couleurs, mais on aurait pu prendre les différents aspects. On peut envisager des méditations à n'en plus finir, mais nous réalisons que ce que la bien-aimée nous dit ici de son bien-aimé nous dépasse. Nous ne pouvons que nous jeter à genoux et dire combien c'est admirable de considérer ainsi une telle personne. Tout son palais est plein de douceur, le palais de sa bouche. Psaume 45, sur ses lèvres, rien que des paroles de grâce. Combien le Seigneur a été bon, combien le Seigneur a été beau, combien le Seigneur a été unique. Toute sa personne est désirable. Et la bien-aimée, de quoi a-t-elle été occupée pendant cette description, pendant ces quelques versets de son bien-aimé ? La voilà la recette pour quitter nos problèmes, nos découragements, nos défaillances. Regardez au Seigneur Jésus. Essayez de le décrire dans notre cœur. Parlez davantage de lui. Partagez son amour entre nous. Aimez-vous les uns les autres. Je vous laisse un commandement. Le Seigneur ne nous laisse pas beaucoup de commandements, nous le soulignons bien dans la parole. Mais entre autres, un des rares commandements que le Seigneur laisse à ses disciples, je vous laisse ce commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Parlez de moi, entretenez-vous de moi, partagez la sainte parole entre vous. Regardez comme je suis beau, comme je suis bon, comme je suis parfait, et au contact de ces perfections, plutôt que de tourner en rond autour de nos petits problèmes, avançons, regardons à lui, entrons dans le service que le Seigneur attend pour chacun de nous, et la bien-aimée va comprendre que ce n'était pas dans la ville qu'il fallait aller le chercher. Ce n'était pas dans les problèmes qu'il fallait trouver le Seigneur. Les gardes le lui ont fait comprendre. Mais c'est au contraire dans un jardin. Alors les filles de Jérusalem, à la fin de cette merveilleuse description, au chapitre 6e, elles ont compris que véritablement ce bien-aimé, il est beaucoup plus que tous les autres bien-aimés de la terre. Elles font preuve de compassion vis-à-vis de celle qui est là, blessée, gémissant, malade. N'oublions pas qu'elle est malade d'amour. Et
les filles de Jérusalem vont se mettre au service de la bien-aimée. Dis-nous, où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné? Et nous le chercherons avec toi. Quelle merveilleuse consolation pour la bien-aimée. Peut-être que seule, pleine de lassitude, pleine de larmes, pleine de sa souffrance, peut-être que seule, elle n'aurait peut-être pas encore eu le déclic de se lever et d'y aller. Nous le chercherons avec toi. Nous sommes en assemblée pourquoi ? Pour prier les uns pour les autres, pour supporter, nous supporter les uns les autres, pour porter les charges les uns des autres. Et celui qui est fort aujourd'hui, demain il sera peut-être très faible. Mais si demain il est très faible, il sera bien content de pouvoir se confier à quelqu'un qui est fort. Personne n'est constant dans l'assemblée. Bien-aimé est à moi parce qu'il le veut bien. Et je suis à mon bien-aimé. Ça, c'est déjà plus correct. Au début du chapitre 6, les termes sont inversés. Je suis à mon bien-aimé. Ah, elle a retenu la leçon. C'est elle qui, spontanément, instinctivement, par pure reconnaissance, va vers son bien-aimé. Mais elle dit encore, mon bien-aimé est à moi. Un peu d'égoïsme encore, un peu d'orgueil encore. Alors il faut attendre le chapitre 7, verset 10. Alors là, c'est la pleine lumière. Elle ne dit plus, mon bien-aimé est à moi, ça a disparu. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Elle s'abandonne. Et tant que nous ne nous serons pas abandonnés totalement dans les bras de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre bien-aimé, eh bien nous connaîtrons des hauts et des bas. Et chaque fois que l'on pensera trop à nous par rapport au bien-aimé, nous aurons des hauts et des bas. Au jour de notre conversion, souvenons-nous, nous étions tout feu, tout flamme pour le Seigneur, comme la bien-aimée pour son bien-aimé. Et le Seigneur occupait tant de place dans notre cœur que les choses de ce monde, on ne s'en occupait même pas. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je le pose la question pour moi. Est-ce que le monde n'a pas grignoté un peu de place dans mon cœur? Est-ce que le Seigneur occupe réellement, je ne vais pas dire toute la place, parce que c'est dans le ciel que le Seigneur occupera toute la place, mais est-ce que le Seigneur occupe la première place dans mon cœur? S'il en est ainsi, merveilleuse confession de la bien-aimée, chapitre 7, verset 10, « Je suis à mon bien-aimé, fais de moi ce que tu veux, travaille-moi, sonde-moi, crée en moi un cœur pur, et je te louerai tous les jours de ma vie. J'apprendrai à mieux te connaître, pour mieux t'aimer, pour mieux te servir. » Si nous prenons le problème à l'envers, nous nous occupons de nous, la flamme de l'amour descend, l'intensité du service qu'il attend de nous baisse, et il faudra qu'il revienne à notre rencontre. Mais à quel prix? Au prix de blessures, les blessures d'un ami sans fidèle, livre des Proverbes. Encore une fois, malgré nos manquements, notre défaillance, notre découragement, nos problèmes, tout est grâce en vérité, car dans la parole de Dieu, nous avons affaire à un Dieu et un Seigneur plein de grâce. Nous devons baisser la tête, nous devons confesser nos manquements, mais nous devons aussi nous réjouir d'avoir affaire à quelqu'un qui nous aime tant, et qui sait si bien répondre à chacune de nos difficultés. Puissions-nous continuer à regarder à lui et à avoir en face de nos yeux son parfait exemple en toutes choses. Lorsque nous nous occupons de lui, en vérité, il est capable de former à son service des cœurs toujours plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous ses yeux, qui chantent, qui tremblent, parce que la marche de la foi est loin d'être facile.